Bonjour Ludivine.
Bonjour Paul.
Alors, premier podcast qu'on a appelé podcast ressources primordiales, qui est aujourd'hui, c'est pour cette première émission, on va se présenter un petit peu et on va présenter les sujets qu'on souhaite aborder dans ce podcast.
Ouais.
On a déjà enregistré une vingtaine de numéros du podcast, mais avant de nous entendre parler sur différents sujets, bah, c'est bien que les gens sachent un peu qui on est. Donc, on peut déjà dire peut-être qu'on a une triple casquette, hein, comme un tricorne.
C'est ça.
Alors, première casquette, c'est...
C'est notre centre de formation.
Voilà.
On est co-dirigeant d'un centre de formation qui s'appelle le CFPA, Centre de formation Plaisir d'apprendre, dans lequel on anime nous-mêmes des cours, et on va expliquer après de quoi, quelle est notre spécialité, mais dans lequel aussi on invite chaque année plusieurs experts internationaux, de renommée internationale, autour de sujets qui sont connexes à notre activité, donc autour de la santé, du mouvement, des réflexes archaïques,
de la périnatalité,
voilà,
des automassages, etc.
Voilà.
Oui. Donc ça, c'est notre première casquette. Ce centre de formation, il existe depuis quasiment 30 ans, et que je l'ai créé en 96. Et on a, au fur et à mesure des années, il y a eu beaucoup de formations dans différentes thématiques qui ont eu lieu. Et puis là, effectivement, depuis 2011, on donne des formations... Enfin non, qu'est-ce que je dis ? Depuis 2011, on donne les formations sur l'intégration motrice primordiale que j'ai créée. C'est notre deuxième casquette, ça va être la transition. Mais on a introduit en France le travail sur le réflexe archaïque. Et on en reparlera plus tard. Donc, deuxième casquette, je viens de l'évoquer, c'est le travail sur le réflexe archaïque. Le fait que j'ai mis au point une méthode synthétique sur le réflexe archaïque. Évidemment, on en va aborder dans toutes nos émissions... ou la plupart, qu'est-ce que sont les réflexes archaïques, à quoi ça sert, comment ça marche, etc. Qu'est-ce que ça peut apporter à l'homme moderne, qu'est-ce que ça peut apporter dans nos sociétés pour les enfants, les adultes, les personnes âgées, les sportifs, etc. D'avoir des connaissances sur les réflexes archaïques. On forme beaucoup de professionnels de la santé, et des gens du grand public, et des enseignants, etc. Donc ça, c'est notre deuxième casquette, donc on peut dire, d'une certaine manière, de spécialiste des réflexes archaïques. Troisième casquette.
Bah depuis très récemment, depuis un peu plus d'un an maintenant, la création de la maison d'édition.
Voilà, la maison d'édition.
Ressources primordiales, qui porte le même nom que ce podcast.
Ah non, ce podcast, il s'appelle, c'est vrai, j'ai dit Connexion primordiale, et non pas Ressources primordiales.
Oui.
Voilà, donc le podcast s'appelle Connexion primordiale, vous voyez, on débute, mais notre maison d'édition s'appelle Ressources primordiales. Voilà. Donc... effectivement, la direction de cette maison d'édition dans laquelle, justement, on veut publier des livres sur toutes ces thématiques, les mêmes qu'on va aborder dans notre podcast, dans ces émissions, qui nous passionnent autour de la santé, du mouvement, du bien-être, des réflexes archaïques, de la périnatalité, etc. Donc, on a déjà vendu un peu la mèche. De quoi on va parler dans ce podcast, c'est toutes ces thématiques autour de la santé, du mouvement, du bien-être, de la primordialité, du mouvement paléo.
L'apprentissage.
Très important, de l'apprentissage, effectivement, de l'écologie, de toutes ces thématiques qui nous plaisent, avec éventuellement des interviews de gens qu'on rencontre qui nous plaisent, de professeurs qui animent des formations chez nous, d'auteurs d'ouvrages, les ouvrages que l'on traduit. Alors, c'est en anglais, donc ce sera peut-être un petit peu difficile, mais peut-être en tout cas de parler de ces ouvrages. On a, comme je disais tout à l'heure, déjà enregistré une vingtaine d'émissions sur différents sujets. Et donc après, on est ouvert à tous vos commentaires, à toutes vos questions, à toutes les envies de podcast et d'émissions. Et c'est avec grand plaisir. Donc, on va se présenter un petit peu. Donc, Ludivine, tu peux dire un peu qui tu es, quelle est ta formation de base et aussi qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, quelles sont tes activités principales aujourd'hui.
Donc moi, mon nom, c'est Bobry, Ludivine Bobry, parce que surtout
avec deux B.
Toujours Ludivine.
Voilà,
je dirais qu'une fois, mais mon nom de famille, c'est Bobry, Baubry.
Voilà.
Et moi, j'ai connu, je t'ai connu, Paul, par l'intermédiaire des formations de Brain Gym que tu donnais, d'éducation kinesthésique. Donc, je me suis formée en 2009-2010 en éducation kinesthésique. Et puis, ensuite, quand tu as synthétisé l'IMP en 2011, j'ai suivi les formations en intégration motrice primordiale. Donc, à ce même moment, j'ai ouvert un cabinet dans lequel j'ai commencé à me spécialiser dans tout ce qui était autour de la périnatalité. Donc, j'avais fait des formations aussi connexes à l'IMP et puis au Brain Gym, autour de cette période périnatale et puis autour de l'accompagnement à la parentalité. Donc, je me suis formée pour devenir animatrice en portage bébé, en massage bébé. J'ai rejoint des associations autour de l'allaitement maternel et j'anime depuis ces années-là, donc 2009-2010, des rencontres mensuelles de partage pour les familles autour de l'allaitement maternel. Voilà, c'était vraiment, je dirais, le cœur du public que j'accompagnais, des futurs parents, des jeunes parents. Et c'était, voilà, c'était très bien comme ça. J'avais aussi tout un tas d'outils, on va dire, d'accompagnement psychocorporel, que j'utilisais aussi en séance individuelle. Donc j'alternais un petit peu entre le groupe et les séances individuelles, ce qui est toujours le cas aujourd'hui pour le cabinet. De formation de base, je suis éducatrice spécialisée, donc j'ai travaillé, on va dire, 7-8 ans dans une institution qui accueillait des adultes en situation de handicap. Et c'est, on va dire, à partir du moment où j'ai beaucoup utilisé, où l'IMP, l'intégration motrice primordiale, est devenu un de mes premiers outils de prédilection en séance individuelle, j'ai commencé à réaccueillir en séance tout un type de public d'enfants, notamment, ou d'adolescents en situation de handicap. Et aujourd'hui, au sein du cabinet, je dirais que j'accompagne des personnes avec des horizons très divers. Toujours ce volet périnatalité, des enfants qui souhaitent améliorer des choses autour de l'apprentissage scolaire ou d'autres types d'apprentissage, des parents toujours qui viennent pour améliorer les relations avec leurs enfants, des adolescents qui veulent passer des examens, des adultes autour de thématiques plus, on va mettre une grande étiquette de développement personnel. Donc l'IMP me sert aujourd'hui à accompagner tout un type de personnes qui ont des demandes bien, bien diverses. Voilà.
Et aussi, tu n'as pas dit, mais tu as une formation de doula. Peut-être tu peux expliquer aussi ce que c'est.
Voilà, à la naissance de ma fille, donc en 2009, elle avait 3 mois, je crois, quand j'ai commencé la formation de doula. En fait, quand j'étais moi-même enceinte et durant la naissance et durant les semaines qui ont suivi la naissance, j'ai été moi-même accompagnée par des femmes, soutenue par des réseaux de femmes et toute une transmission comme ça de femme à femme qui m'a été très précieuse dans cette période de grand bonheur mais de grande vulnérabilité aussi. Et donc je me suis très vite intéressée par le métier de doula et j'ai fait une formation à l'Institut des doulas de France, une formation très complète qui permet d'accompagner les couples, les familles autour de l'arrivée d'un enfant, donc parfois plus pendant la période de la grossesse, parfois avec des présences au moment de la naissance quand les familles le souhaitent, et aussi tout l'accompagnement très intéressant, très précieux pour les familles dans le postpartum immédiat ou même un petit peu après, ça peut aller jusqu'au 1 an de l'enfant, des femmes qui continuent à correspondre avec moi bien après la naissance de leur enfant. Donc j'ai exercé, quand j'ai ouvert le cabinet, le métier de doula vraiment pleinement, on va dire, à côté de mon activité qui débutait, donc qui démarrait en cabinet, donc j'avais peu de séances, on va dire, au départ, mais je passais beaucoup de temps à accompagner les couples et à proposer cet accompagnement, on va dire, global, qui est vraiment très complémentaire à un accompagnement médical, parce que moi, j'ai pas de compétences médicales, donc c'est toujours des familles qui avaient des accompagnements médicaux, par ailleurs, avec sage-femme ou gynéco-obstétricien ou autre, pour le suivi de grossesse et la naissance. Et ça a occupé vraiment beaucoup de mon temps. Aujourd'hui, je dirais que c'est une activité qui me prend toujours du temps, mais qui est plus annexe, c'est-à-dire que les gens viennent plutôt, j'ai des accompagnements par téléphone, à distance, ou je fais venir les gens au cabinet pour des demandes de sujets ponctuels qu'ils veulent développer avec moi, mais j'exerce plus vraiment le métier de doula tel qu'on en a, enfin, par rapport à la représentation qu'on en a d'aller chez les familles, passer beaucoup de temps chez eux, etc. Voilà, c'est plus comme ça que j'exerce ça. Et puis la rencontre avec l'IMP aussi m'a fait mettre en place des petites modules, on va dire, ateliers de sensibilisation autour du développement de l'enfant, des rythmes de l'enfant, et à compléter un petit peu les choses, enfin teinter un petit peu les choses que je faisais déjà auprès de structures de petite enfance, par exemple, où je vais former du personnel autour du portage, du massage, de l'allaitement maternel, mais avec maintenant toujours cette grille de lecture des réflexes archaïques et du développement de l'enfant à la lumière de cette compréhension-là. Et ça intéresse beaucoup, beaucoup à la fois les familles et les professionnels de la santé, de la périnatalité et des structures petite enfance. Donc une activité très variée pour moi, on va dire grosso modo mi-temps de cabinet, et puis mi-temps, centre de formation, formatrice en IMP, en ta compagnie.
Voilà. Donc les choses qui te passionnent aujourd'hui, qui t'intéressent, la recherche que tu fais, c'est quel sujet, c'est quelle thématique ?
Moi, ça reste quand même mon sujet de prédilection, on va dire, c'est autour de cette période périnatale, quoi, de la compréhension des comportements innés à la fois des bébés, des mères, des familles, et de cette interaction de comportements innés, quand on laisse, je dirais, quand on met en place un environnement sécurisant pendant cette période-là, il y a plein de belles choses qui peuvent arriver et les processus finalement sont assez simples. Quand on laisse aller les processus physiologiques, ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup de savoir. Bon, aujourd'hui, on a médicalisé, peut-être surmédicalisé, c'est un point d'interrogation, beaucoup de choses autour de la naissance, de l'allaitement maternel, de la grossesse. Et parfois, en regardant juste un petit peu comment on fonctionne, et quand on met en place un environnement sécurisant pour les femmes, les familles, les bébés, on s'aperçoit que les gens sont pleins de ressources. Et moi, c'est accompagner un petit peu les gens dans cette découverte-là de leurs ressources d'eux-mêmes qui me passionne. Et donc, bah, on va dire que pour moi, mes centres d'intérêt tournent vraiment autour de ces sujets-là aujourd'hui,
pour l'instant, en tout cas. Très bien, merci. Avec toujours aussi cette coloration des réflexes archaïques,
toujours, et puis de pouvoir accompagner aussi des familles qui sont en recherche, des familles par exemple qui ont des enfants en situation de handicap ou qui présentent vraiment des, qui sont pas forcément diagnostiqués médicalement, mais qui présentent vraiment des enfants qui présentent des défis très importants. Et qui, je dirais, qui écument un petit peu un parcours du combattant de recherche de solutions pour leurs enfants ou d'amélioration du développement moteur ou de la sphère relationnelle ou de l'accès à la sphère cognitive, tout ça. Et encore une fois, l'approche d'intégration motrice primordiale, elle est vraiment complémentaire à beaucoup de rééducation plus conventionnelle qui existe, plus classique. Moi, quand les parents viennent me voir, ils arrivent un petit peu en fin de parcours. En quelque sorte, ils ont déjà fait un certain nombre de professionnels et ça les a aidés beaucoup. Mais ils sont en recherche aussi de pouvoir s'investir autrement auprès de leur enfant, d'avoir une compréhension nouvelle et surtout de pouvoir proposer à leur enfant une approche qui est basée aussi sur la valorisation des potentiels de leur enfant. Et moi, mon but aussi, c'est de pouvoir leur permettre d'observer ce qui va bien chez leur enfant, quelle est leur ressource, quelle est leur force, et aussi du côté du parent, c'est difficile, c'est pas toujours évident l'annonce d'un handicap ou autre, mais comment je vais pouvoir piocher dans mes ressources et mettre en place des choses dans le quotidien, pratico-pratique, et puis comment je vais pouvoir proposer telle ou telle stimulation qui va pouvoir libérer le potentiel au plus possible de mon enfant, quoi.
Très bien, merci beaucoup. Merci.
Alors, il y aurait plein de choses à dire, mais c'est déjà pas mal.
Oui, mais les gens nous découvriront plus au fur et à mesure des différentes émissions.
Oui, bien sûr.
Alors, c'est mon tour. À toi. Voilà. Bah, moi, on peut dire que ma vie a commencé comme mauvais élève à l'école, où je dirais pas tellement le fait que j'étais mauvais élève, mais que je détestais l'école, d'être enfermé, de devoir rester assis toute la journée sans bouger. Je détestais devoir apprendre ce qu'on me disait d'apprendre, parce que moi, j'adorais apprendre, mais à mon rythme. J'avais plein de questions sur l'astronomie, sur la préhistoire, sur pourquoi l'être humain, sur comment ça marche le corps humain, sur plein de choses, mais j'avais pas les réponses. Évidemment, on me disait, tu le sauras plus tard. Et effectivement, les choses qui m'intéressaient venaient en troisième, mais moi, j'avais les questions à 6 ans. Et donc, je me suis désintéressé de l'école très, très vite. Je refusais d'aller à l'école, ça ne me plaisait pas, etc. Donc, voilà. Et donc, très souvent, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Un désintérêt de l'école. Et puis, je suis devenu ce qu'on appelle un élève décrocheur. Et j'ai arrêté de travailler. J'ai redoublé plusieurs fois des classes. Et puis, j'ai quitté le système scolaire à 16 ans. Et je suis devenu animateur pour enfants, donc parce que j'ai toujours aimé le milieu des enfants, et ça a continué toute ma vie, de travailler avec les enfants, tout d'abord comme animateur au ski, à la neige, etc., et puis encadrement de colonies de vacances, de classes de mer, classes de neige, etc. Je suis devenu formateur d'animateur, hein, formateur BAFA, donc à 18 ans, j'ai fait une formation de formateur, et j'ai commencé à faire de la formation, et ça a été tout de suite pour moi un coup de foudre de former. J'ai eu la chance de suivre une très bonne formation de formateur, avec des psychothérapeutes et un monsieur, je crois, il faisait de la sociologie, des choses comme ça, et donc d'avoir une formation assez poussée, et ensuite de me poser beaucoup de questions sur la psychologie, le développement de l'enfant, les thérapies, et donc à 18 ans, alors d'abord, je me suis intéressé à tout ce qui est, grâce à ma mère, médecine, on appelait ça à l'époque médecine douce, nutrition, choses un peu parallèles, très jeune, c'est-à-dire adolescent. À 18 ans, je lisais les premiers livres qui sortaient sur la PNL, l'analyse transactionnelle, les choses un peu de développement personnel. Donc, c'est quelque chose qui m'a suivi toute ma vie. Et puis, j'ai commencé à devenir formateur à 18 ans. Et comme je le disais tout à l'heure, c'était un coup de foudre. Et puis, je me suis dit, ben voilà, j'ai décroché à l'école quand j'étais petit, mais j'ai envie d'apprendre. Et un peu comme toi, je voulais, parce que j'étais animateur pour enfants, mais je m'intéressais un peu au monde du handicap. J'avais eu la chance de travailler avec des enfants en situation de handicap, comme, non pas moniteur de ski, mais moniteur de voile. Et ce public me plaisait, je voulais devenir éducateur. Mais pour être éducateur, il faut son bac, et moi, je n'avais pas mon bac. Donc, j'ai commencé à suivre des cours du soir pour avoir un équivalent du bac. Et j'avais toujours les mêmes difficultés, c'est-à-dire des difficultés au niveau des mathématiques, au niveau de, surtout pour moi, la grammaire, les choses comme ça. J'avais du mal. Et donc, j'ai commencé à chercher des approches qui pouvaient m'aider. Et là, on était en 1987. Donc, j'ai fait de l'ostéopathie, puis on m'a orienté vers la méthode Vitose, et puis différentes approches. Et puis, j'ai rencontré le Brain Gym. L'approche Brain Gym, les premières formations avaient eu lieu en 88. J'ai rencontré ça en 89. Je me suis formé au Brain Gym, ce qu'on appelait à l'époque la kinésiologie éducative, qu'on appelle maintenant l'éducation kinesthésique. Et je suis très vite, tout de suite, devenu, enfin, assisté à la première formation de formateur en Brain Gym en France avec Paul Hegel-Denison. Et puis, c'était le coup de foudre. Et je me suis, j'ai suivi Paul Hegel-Denison dans différents pays. Je suis devenu leur interprète, leur traducteur. Et j'ai travaillé avec eux pendant 20 ans. Et je suis devenu représentant de cette approche en France. Et j'ai fait énormément de formations. Et en 96, j'ai créé, on l'a évoqué tout à l'heure, le CFPA, Centre de formation de plaisir d'apprendre, pour enseigner le Brain Gym, mais pas que. Dans ce centre de formation, j'ai invité des gens sur des formations de massage, relaxation coréenne, massage yoga thaï, différentes approches de santé, bien-être, mouvement. Mais ma passion a été, je dirais, pendant 25 ans, plus de 20 ans de ma vie, 25 ans de ma vie, a été l'amélioration de l'apprentissage. Comprendre comment un être humain apprend, qu'on est fait pour apprendre, qu'on apprend tout le temps, que les bébés apprennent, les enfants apprennent, que malheureusement, il y a des humains qui se retrouvent face à des difficultés d'apprentissage. Et ma passion, c'était comment améliorer les choses, comment se débarrasser des difficultés d'apprentissage. C'est quelque chose que j'avais vécu moi. Et donc, j'ai commencé mon cabinet en 93. Et pendant plus de 25 ans, j'ai reçu des enfants et des adolescents en difficulté d'apprentissage, c'est-à-dire lecture, écriture, concentration, les problèmes scolaires classiques, parfois appelés troubles 10, mais que moi, je préfère appeler difficulté d'apprentissage dans le cas des enfants que je vois. Et donc, j'ai travaillé avec ça pendant des années. Et puis, au fur et à mesure des années, je me posais plein de questions sur comment ça marche le Brain Gym, d'où viennent ces difficultés d'apprentissage, est-ce que ça commence plus petit, etc. Et très vite, j'ai entendu parler par des experts au niveau international, par en France, ça n'existait pas, mais des réflexes archaïques. Le premier qui m'en a parlé, c'est Paul Denison. Et puis, d'autres gens dans des congrès internationaux, parce que je suis allé dans des congrès dans différents pays sur l'amélioration de l'apprentissage, le Brain Gym, etc. Et j'ai entendu parler à l'époque des premiers balbutiements dans la fin des années 80, justement, début des années 90, des réflexes archaïques. Et donc là, j'ai, dans le cadre du centre de formation Le Plaisir d'Apprendre, introduit en France les premières formations sur le réflexe archaïque qui ont abouti plus tard en 2011 à la création d'une synthèse de toutes ces approches qui s'appelle l'IMP, l'intégration motrice primordiale. Mais donc, je me suis intéressé à ça. Et puis progressivement, ce travail sur le réflexe archaïque m'a amené à comprendre plus comment fonctionne l'être humain, plus en détail, comment il se développe, et du coup, comprendre comment il se développe au niveau cognitif, c'est-à-dire des apprentissages, mais aussi au niveau émotionnel et au niveau postural, au niveau corporel. Et puis évidemment, à 40 ans, on n'est pas pareil qu'à 20 ans. Donc à 40 ans, je m'intéresse plus à comment avoir un corps en bonne santé, les douleurs de dos, les problèmes de santé, comment entretenir sa vie, et donc à m'intéresser à toutes ces choses-là. Alors attention, depuis adolescent, je m'intéressais aux approches corporelles. J'ai eu un coup de foudre pour les arts martiaux. À 16 ans, j'ai redoublé la troisième. J'ai rencontré un vieux professeur de judo et karaté. J'ai commencé à m'intéresser à la philosophie des arts martiaux, et puis plus tard, à des différentes, beaucoup d'approches corporelles. Et ça m'a toujours plu toute ma vie, en fin de compte, depuis l'adolescence. Aujourd'hui, je vais avoir dans 3 jours 51 ans, mais toute ma vie, je me suis intéressé à tout ce qui est ce qu'on appelle développement personnel, bien-être, santé, approche corporelle, mouvement. J'ai lu des milliers de livres sur le sujet, j'ai suivi des milliers d'heures de formation dans différents domaines, et puis j'ai organisé des formations. Et donc voilà, mes sujets de prédilection et ce qui me passionne aujourd'hui, c'est l'enseignement, la formation professionnelle, professionnelle de santé, autour de différentes thématiques, mais qui ont tout un fil conducteur qui est le travail sur les réflexes archaïques, le développement de l'être humain au niveau cognitif, émotionnel, corporel, postural. Et moi, j'ai une sorte de mot-clé dans ma philosophie de vie, dans une petite passion, c'est ce qu'on peut appeler la primordialité, c'est-à-dire chercher à comprendre qu'est-ce qui est primordial chez l'être humain, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est superficiel. Et je pense que c'est d'autant plus important dans notre monde hyper technologique, hyper virtuel, avec beaucoup de malaise, beaucoup de gens qui souffrent au niveau corporel, bien sûr, au niveau cognitif, avec beaucoup de troubles scolaires et de difficultés chez les enfants, et beaucoup de gens ont des difficultés émotionnelles, se sentent pas bien, beaucoup de dépression, beaucoup de gens sont malheureux, etc. Et moi, je pense que ces notions de primordialité qu'on va aborder dans ce podcast Connexion Primordiale sont essentielles pour le bien-être physique, émotionnel, corporel, cognitif de l'homme moderne. Et donc ça, c'est quelque chose qui me passionne, en particulier depuis que j'ai pu créer mon approche, que toi et moi, on fait évoluer depuis 2014. Si j'ai commencé en 2011, voilà, on s'est rencontrés en 2014, tu as commencé à travailler un petit peu avec moi en 2014. Et puis depuis 2016, on anime toutes les formations ensemble. On a commencé avant à animer les cours ensemble.
Ah oui, moi, j'avais suivi les cours de Brain Gym en 2009-2010, mais on a commencé à collaborer autour de l'IMP vraiment.
Voilà. À partir de 2014. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, 2014. Et donc, tous les deux, on a fait évoluer les choses en rajoutant toutes tes passions aussi j'allais dire, l'enfance et la périnatalité, etc. Et ça nous a amené à rencontrer d'autres experts et faire d'autres choses. Donc, voilà un peu. On s'est présenté avec nos trois casquettes, tous les deux co-directeurs d'un centre de formation, d'une maison d'édition, et puis avec nos passions et nos thématiques. Et donc, dans ce podcast, dans ces émissions, ce podcast qui s'appelle Connexion Primordiale, peut-être on peut expliquer ces deux mots. Connexion Primordiale, le mot connexion, c'est établir des connexions entre les différents sujets qui nous passionnent, entre les différentes sphères de l'être humain, le cœur, le corps, l'esprit, qu'on symbolise dans le logo de l'IMP par les pieds, le cœur, et puis pour l'esprit, on met un petit morceau de puzzle. J'aime bien cette notion de morceau de puzzle, parce que dans le puzzle, on a la vision du détail et de la vue d'ensemble. Et primordial, pourquoi ? Parce qu'on a ce fil conducteur aussi bien de la primordialité, c'est-à-dire en lien avec les réflexes primordiaux, les réflexes archaïques, en lien avec nos connaissances du bébé, comment il se développe, et même du fœtus, de ce qui se passe, toi, ce qui te passionne chez un couple, chez le bébé, moi aussi, tout mon intérêt que j'ai pour la préhistoire, d'où on vient, comment l'homme a évolué au fur et à mesure des millénaires et s'est forgé dans la nature, et puis tout ce qui est aussi ce mot primordial, aujourd'hui essentiel, et les choses qui ne sont pas essentielles dans notre monde. Et donc voilà, Connexion Primordiale, le podcast autour de santé, mouvement, apprentissage, périnatalité,
etc. Et voilà.
Et jeu, très important, merci beaucoup. Et donc, on a déjà enregistré plusieurs podcasts qu'on vous laisse découvrir. Et surtout, écrivez-nous, téléphonez-nous.
Voilà, pour nous
faire vos suggestions.
Des idées thématiques, choses que vous voudriez qu'on développe.
Voilà, comment on peut s'améliorer, est-ce que les émissions vous plaisent. Chaque émission, vous pouvez mettre vos commentaires en bas de la page. Vous pouvez nous retrouver, bien sûr, sur notre site www.apprendre.org, c'est le site de notre centre de formation. Vous pouvez nous trouver sur ressources-primordial.fr. Il y a un S à ressources et à primordial. Ça, c'est le site de notre maison d'édition et de notre petite boutique en ligne autour des automassages, de la santé, du mouvement, du bien-être, etc. Et vous pouvez nous retrouver aussi, ce podcast, sur iTunes en tapant tout simplement Connexion Primordiale. Et donc, ça veut dire que vous pouvez écouter ce podcast sur votre téléphone dans une application de podcast. Et il en existe des centaines. C'est absolument gratuit. Voilà.
Voilà, super.
Et merci. Et puis, on est très contents de se lancer dans cette nouvelle aventure avec vous.
Oui, à bientôt tous ensemble.
À bientôt tous ensemble. Merci.